voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Antenne spéciale consacrée aux déchets sur RFI aujourd'hui, vous le savez. C'est l'occasion pour nous de nous interroger sur le plastique. Est-ce qu'on peut emballer sans plastique? On le sait, le recyclage ne suffira pas. Il faudra, dans les années à venir, réduire les 310 millions de tonnes de plastique générées chaque année dans le monde. La majorité du plastique est utilisée pour l'industrie agroalimentaire. C'est un emballage, il faut le dire, très bon marché. Alors, quelles alternatives? Du papier, du carton, des fibres végétales, de la cire d'abeille, pourquoi pas? Ou pas d'emballage du tout? Nous allons en discuter avec Annette Fredinger. Bonjour.
Oui, bonjour.
Annette Fredinger, vous êtes une experte internationale en emballage et conditionnement. Vous êtes aussi professeure à l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries agroalimentaires. Et vous êtes à Nancy, grâce aux moyens techniques de France Bleu Sud-Lorraine. Vous allez nous expliquer quels sont aussi les différents types de plastique. On parle maintenant de plastique biosourcé. Qu'est-ce que c'est? Comment on le reconnaît? Peut-être qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et également avec nous dans le studio, Quentin Sinel, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors vous êtes vraiment sur une alternative, hein, on verra quel est l'avenir de cette alternative. Vous êtes fondateur de l'entreprise L'Embayage qui propose des emballages faits à partir de cire d'abeille et de coton. On verra aussi comment vit le Rwanda, premier pays au monde à interdire les sacs plastiques il y a plus de 10 ans, avec notre correspondante à Kigali, Laure Broulard. Et quant à vous, les voisins et les voisines, que faites-vous pour limiter les emballages plastiques? On attend vos réactions, vos questions au 33 1 84 22 71 71, c'est aussi bien sûr le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous téléphoner gratuitement ou nous envoyer des messages écrits. A tout de suite.
Journée spéciale sur RFI.
Déchets, ça déborde. On fait quoi?
Et tout de suite, reportage de Raphaël Constant à Conakry, en Guinée. 3 millions d'habitants, une ville au bord de la mer. Mais pour atteindre le rivage, il faut traverser une montagne de déchets. Chaque dernier samedi du mois, depuis plus d'un an, une opération Conakry Ville Propre est organisée. Toute la population est invitée à se mobiliser pour nettoyer les quartiers de la ville. Dans la commune de Kaloum, les éboueurs, les écoliers et les commerçants sont équipés de pelles, de balais et de brouettes. Et on voit beaucoup de plastique.
T'as vu?
C'est la journée de l'assainissement à
Conakry.
Ouais,
c'est la journée des assainissements. C'est le samedi. Tout le monde doit assainir.
Tout le monde doit descendre dans la rue pour nettoyer, c'est ça?
Ouais, descendre la route, nettoyer la ville de Conakry. T'as vu, il y a beaucoup de maladies, quoi. Il faut qu'on fait. Sinon, les gens vont mourir, le saleté. Le problème de ça, il n'est pas bien organisé, quoi. Si c'est organisé, il n'y a pas de problème.
Et les journées d'assainissement comme ça, ça marche? C'est-à-dire les gens sortent pour nettoyer, ça marche vraiment? Ça marche un peu. Un peu.
On n'a pas bien payé, mais ça marche un peu.
La Guinée est trop sale. Il faut qu'on prenne bien soin de la Guinée. On a envoyé les poubelles ici, mais toujours ça continue. Tous les jours, les déchets, tu n'as pas vu? Regarde tous ces déchets. Oui.
Et toi, tu les jettes tous tes déchets?
Moi, je jette pas mes déchets à terre. Moi, je jette mes déchets dans la poubelle.
Mais il n'y en a pas partout à Conakry. J'en ai pas vu beaucoup, moi.
Il y a encore, il fait pipi ici, sur la rue. Ils n'ont même pas... Tu vois là-bas, c'est le pipi qui est là-bas.
Il n'y a pas les lois dans le pays, là. On pisse n'importe où, on écrit n'importe où. Vous n'avez pas vu les murs d'ici.
Vous avez quel âge, dites-moi?
Moi, j'ai 10 ans.
Moi, j'ai 12 ans.
Est-ce que vos parents ou à l'école, on vous dit qu'il ne faut pas jeter par terre?
Nous, nos parents nous conseillent toujours ça, de ne pas jeter par terre. Mais les grands, quand même, ils ne comprennent pas. On dirait qu'ils sont des petits, ils jettent n'importe où par terre. Et les policiers ne peuvent même pas l'arrêter. Si c'était en France ou en Belgique, on ne jette pas n'importe où. Mais ici, on jette n'importe où.
En France, il n'y a même pas de saleté ici. Mais ici, il y a les ordi, ici, ça sent mauvais.
Merci, enfants.
Merci.
Bonne journée.
Je m'appelle Sori Camara, je suis le président de la Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée. Au niveau de la valorisation des déchets, il n'y a qu'une seule unité industrielle principale qu'on appelle Sodiaplast qui fait le recyclage des déchets plastiques entre 15 à 20 tonnes de déchets par jour.
Et une fois que les déchets sont ramassés à Conakry, éventuellement triés et, comme vous dites, revalorisés, qu'est-ce qu'on en fait ?
Il y a actuellement plus de 1216 collecteurs sur toute l'étendue du territoire qui collectent les déchets plastiques. Et ces déchets plastiques sont triés et revendus à quelques unités industrielles. Mais comme je vous ai dit, il n'y a qu'une seule qualité de déchets plastiques de nos jours qui sont utilisés par les unités industrielles. Il s'agit des poches d'eau minérale, le polyéthylène à faible densité.
Qui est un vrai fléau.
Oui, c'est un vrai fléau. Pourtant, il y a le PET, il y a le polypropylène, il y a le PVC. Donc, il y a les autres types de déchets plastiques qui n'ont pas de filière aval. Aval, ce sont des richesses qu'on crée sur ces déchets-là. C'est-à-dire, ça peut être une usine, ça peut être un service qu'on crée et qui, à travers ces déchets-là, on peut créer de l'argent. Quand je prends le plastique, Sodiaplast, aujourd'hui, c'est l'une des entreprises spécialisées sous-régionales qui valorise le plastique en des bassines, en des broches à laval, également en des poubelles, en des petits tabourets.
Et donc la majorité des déchets sont incinérés dans les décharges, en dehors de Conakry, puis enfouis.
Oui, la plupart des déchets qui sont produits ici, si ce n'est pas incinéré localement par le ménage, c'est incinéré au niveau de la décharge. Et donc c'est une urgence aujourd'hui qu'on crée des entreprises par rapport à ces autres types de déchets. Quand c'est canalisé, c'est organisé, ça peut créer énormément d'emplois, je dis bien énormément d'emplois pour les femmes, les enfants et les jeunes. Parce que je vous dis un exemple, avec 270 tonnes de plastique, mais quand même, si on a trois unités industrielles ayant la capacité 90 tonnes par jour, le problème de plastique est fini à Conakry.
Annette Fredinger, est-ce qu'on peut en finir avec le problème du plastique, comme le disait cet intervenant à Conakry ?
Si on fait preuve d'un peu de bon sens et d'organisation, on peut savoir gérer le problème. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut se garder de jeter le bébé avec l'eau du bain et regarder de très près ce qui se passe. Et moi, je voudrais féliciter ces enfants de Conakry pour ce qu'ils font et cette lucidité qu'ils ont. De dire on pisse partout, on jette partout. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les structures derrière qui permettent aux enfants et aux consommateurs en général de se débarrasser de leurs déchets, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et c'est effrayant de voir que ce sont les consommateurs qui prennent en charge ce problème. Moi, je l'ai vu dans d'autres pays d'Afrique, il n'y a pas si longtemps, la principale décharge de déchets à Alger était à ciel ouvert. Elle était au bord de la Méditerranée. Donc on sait que quand il pleut, les résultats sont on pollue la mer. Pourquoi cette décharge a été progressivement enfouie ? C'est tout simplement parce que la décharge était à proximité de l'aéroport et que quand on a une décharge, on a des oiseaux. Et les oiseaux sont un fléau pour les avions. Donc ça veut dire que quand on veut se donner les moyens, on peut. Ce qui n'était pas ce qui était gênant, c'est qu'on n'ait pas pris ce problème par le côté environnemental. Alors c'est vrai que ce que dit ce monsieur... si on avait davantage d'unités de transformation en Afrique, on pourrait peut-être résoudre un peu ce problème. Mais globalement, c'est le problème de l'Afrique qui dispose d'assez peu de fabricants d'emballage, ce qui fait d'ailleurs qu'ils importent beaucoup du monde entier. Et les poches à eau en polyéthylène haute densité sont par contre un des matériaux assez simples à travailler que les petits industriels africains peuvent faire. Alors après, moi j'insiste sur le fait, c'est notre cas en Europe, on ne peut pas recycler le polyéthylène pour un contact alimentaire sans avoir des installations très compliquées, parce qu'on ne peut pas recycler pour un contact alimentaire sans avoir garanti les conditions sanitaires et d'hygiène. Et donc en Europe, ce sont des sites absolument homologués et contrôlés. Et je doute que du coup, en Afrique, on ait ce genre de choses.
On n'en est pas encore là, en effet. Et vous, Quentin Sinel, alors, que vous inspire ce reportage ? Vous avez entendu la toute jeune génération sur un continent où on pensait que les habitants s'étaient habitués finalement aux déchets. C'est pas le cas, pas forcément en tout cas.
C'est pas le cas parce qu'ils en sont en fait victimes par ces déchets qui pullulent dans l'environnement, dans le milieu urbain et naturel. Et il n'y a pas de solution qui existe, donc oui, de les ramasser, de les collecter, de les entasser.
On va en parler justement.
Mais derrière, pas de solution concrète dans le recyclage de ceci. Donc,
Annette Fredinger, on a moins de 20% des plastiques qui sont produits dans le monde qui sont recyclés ou incinérés. Le reste se retrouve dans des décharges dans la nature, dans les fameuses soupes de plastique océanique. L'Union européenne ambitionne 80% de plastique recyclé. On en est en fait très loin parce que pour le moment, le plastique est utilisé pour les emballages. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est la part du plastique recyclable?
Alors effectivement, quelques définitions qui permettent d'abord de savoir qu'un emballage n'a d'intérêt que s'il sert à quelque chose. Conserver, transporter, stocker. Donc le bon emballage, le juste emballage, c'est celui qui répond à des fonctions qui sont liées aux contraintes que subit le produit depuis sa production jusqu'à son consommation et derrière la fin de vie. Parmi ces emballages, on a différents matériaux possibles, dont les plastiques, qui sont les matériaux les plus récents, puisqu'on a vu apparaître le plastique dans les années 60. Exactement comme dans le textile, on a vu le nylon et le polyester apparaître et envahir nos garde-robes. Hein. Alors, dans ces plastiques qui sont issus du pétrole, hein, pour le plus grand nombre, c'est effectivement un des matériaux les moins recyclés. D'abord parce que c'est le matériau le plus récent, mais parce qu'il y a tellement différentes familles de plastiques que, excusez-moi l'expression, ces plastiques sont racistes entre eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recycler un PET, comme on va dire, on en a entendu parler tout à l'heure, avec un PEHD. Non, ce n'est pas possible. Donc, ça suppose des opérations de tri sélectif très pointues en amont et derrière, du recyclage. Alors, une deuxième définition, qu'est-ce qu'on appelle un emballage recyclable? En Europe et donc en France, un emballage est qualifié de recyclable s'il y a derrière une filière économique et écologiquement intéressante pour le recycler. Ça ne veut pas dire que techniquement, on ne sait pas faire. Parce qu'en général, le producteur de cet emballage, il sait recycler ses déchets. Mais s'il n'y a pas une filière derrière, structurée, ça ne sera qualifié de non recyclable. Je vais prendre un exemple. Le pot de yaourt en France, encore pour l'instant, est qualifié de non recyclable parce qu'il n'y a pas la filière existante. On est en train de la tester dans certaines villes.
Donc, ce n'est pas parce que le plastique du pot de yaourt n'est pas recyclable en théorie, hein, techniquement, mais c'est parce qu'il n'y a pas la filière. Donc c'est
tout à fait.
Effectivement. Donc, quand on dit qu'environ 50% des plastiques ne sont pas recyclables, oui. Ça veut dire que derrière, ce sont des filières et des installations qui manquent.
Tout à fait. C'est pour ça qu'en Europe et en France, on a agi sur les grandes masses. Alors, on a commencé par les flacons et les bouteilles qui représentent la plus grande majorité des emballages en plastique. Donc, un tonnage important, donc du polyéthylène, donc du PET, et on a structuré derrière des filières qui permettent de recycler cela. Néanmoins, par exemple, si on parle des bouteilles en PET, on peut dire qu'en France, on n'a que la moitié à peu près
PET,
qui sont recyclées.
Alors, on va peut-être arrêter de parler avec des sigles PET, PEHD, oui. Qu'est-ce que c'est exactement, Annette?
Alors, c'est des filières, c'est des familles chimiques. Hein. Le PET, c'est le téréphtalète d'éthylène glycol, donc on ne voit pas le dire comme ça. C'est PET, comme on peut dire, et c'est surtout l'emballage qui porte le numéro 1. Puisque tous ces emballages en plastique portent des numéros, ces numéros devant permettre de trier. Bon, ça va surtout aider le consommateur à s'en sortir. Mais bon, comme pour l'instant, on ne vous demande pas de trier d'à côté le numéro 5 qui est le polypro, du P numéro 1 qui est le PET, ça ne sert pas à grand-chose.
Effectivement,
ça,
on n'en est pas encore là, en effet.
Voilà.
Comment on peut reconnaître les différents types de plastique qu'on a dans les mains?
C'est très compliqué, c'est de la chimie.
Une bouteille d'eau en plastique, par exemple.
C'est classiquement du PET. Pourquoi? Parce que c'est très brillant. Et pourquoi? C'est parce que c'est imperméable au gaz. Donc, tous les sodas, les bières et les boissons carbonatées sont classiquement retenus dans du PET. Alors, ce PET se justifie parce que, par exemple, le polyéthylène ne va pas garder le gaz. Donc, la bouteille de lait, elle, qui n'est pas gazeuse, sera en polyéthylène. Donc, à chaque caractéristique d'un produit alimentaire...
qui n'est pas recyclable ou...
Si, mon Dieu, si. De regarder, comme on demande aux enfants des écoles, de trier aussi les bouchons. C'est un polyéthylène qu'on va pouvoir recycler. Si polyéthylène, PET et polypro sont les trois matériaux plastiques recyclables et recyclés actuellement, tant en France qu'en Europe.
On va passer la parole à des auditeurs. Abdoul est à Marseille. Il nous dit qu'ici au Sénégal, on a essayé d'interdire les sacs plastiques, mais ça n'a pas abouti. Finalement, on les réutilise comme d'habitude. Il faut préciser que sur le continent africain, on a 11 pays qui ont interdit la production de sacs plastiques, qui ont emboîté le pas du Rwanda, pionnier en la matière. Un sac plastique met entre, vous me dites si je me trompe, Annette Frédinger, entre 100 et 400 ans à se décomposer. Hein. Aminata est à Paris. Alors elle dit qu'il faut apporter ses contenants chez les commerçants. Mon boucher refuse catégoriquement et moi je refuse ses sacs. Donc ça doit être bien le dialogue chez le boucher. Je mange toujours de la viande, mais j'ai baissé ma consommation. J'utilise des contenants en verre. Là, il y a un problème effectivement d'hygiène hein, si le boucher refuse le contenant qu'apporte Aminata Annette.
Oui, puisque par exemple, nous avons en cours en France une discussion au Sénat actuellement hein, pour imposer, pour mettre en place cette loi qui va promulguer la consignation des emballages en plastique en particulier, soit pour le réemploi, soit pour la consignation. Donc cette loi va dire, attention, si le récipient qu'apporte le consommateur n'est pas suffisamment propre et peut présenter des problèmes qui risquent de donner des intoxications, le commerçant a le droit de refuser de mettre le produit alimentaire dans cet emballage. Il va pouvoir, c'est normalement la tournure que prend cette future loi, hein, il va pouvoir apposer une petite mention dans son magasin disant qui précisera qu'il ne pourra remettre le produit alimentaire dans cet emballage qu'apportera le consommateur vide que si cet emballage est en état de recevoir le produit.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Quel regard vous portez sur les emballages plastiques? On donne la parole à Samba qui nous appelle du Congo Brazza. Il est à Pointe-Noire. Bonjour Samba.
Bonjour.
Alors vous, comment ça se passe? Vous avez observé ce qui se passait au marché, je crois.
Oui, oui. En fait, au Congo, face au refus des autorités d'utilisation des sacs plastiques, au marché, les vendeurs ont eu une alternative aux sacs plastiques. On utilise maintenant des feuilles. Mmh. C'est une sorte de grosse feuille qu'on emballe les légumes comme la tomate. Et puis, ça nous permet aussi de cuire le manioc en même temps. Donc, les comportements changent au moins au fur et à mesure.
Ça veut dire que vous avez observé chez certaines vendeuses au marché qu'elles sont passées du sac plastique aux feuilles ou elles ne sont jamais arrivées au sac plastique?
Non, auparavant, on utilisait les sacs plastiques pour le même emballage. Mmh. Mais depuis quelques années, le sac plastique est interdit au Congo. Mmh. Donc, face à cette rareté, donc on utilise les feuilles. En fait, au départ, c'était les feuilles qu'on utilisait pour cuire le manioc. Et les comportements évoluent, on utilise maintenant pour emballer certaines choses.
Et c'est solide, ça craque pas trop, les clients ne se plaignent pas?
Non, ça craque pas trop. De toute façon, on est habitué, hein, c'est depuis longtemps qu'on utilise.
Ça veut dire qu'il faut tout de même avoir un sac avec soi, un sac en tissu ou un panier. Comment ça se passe? Alors, il y a quand même, sur les marchés africains, pas mal de vrac, hein, notamment le sucre.
Oui, le sucre, quand on le vend en détail, souvent, ils mettent dans des enveloppes kaki.
En papier.
Une sorte d'enveloppe en papier, oui.
Ouais. Merci beaucoup de nous avoir téléphoné, Samba. On donne aussi la parole à Dupont qui nous appelle de Goma, à l'est de la RDC. Bonjour, Dupont.
Bonjour, Emmanuel.
On vous prend, je crois que vous allez bientôt en cours, mais c'est un sujet qui vous intéresse aujourd'hui, le problème du plastique?
Oui, c'est vrai, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai, vous attaquez beaucoup, nous attaquons beaucoup au plastique, mais je trouve qu'ici, chez nous, en Afrique, c'est très indispensable dans la vie quotidienne. Mm-hmm. Parce que même vous aussi, vous le savez, dans des hôpitaux, les hôpitaux, c'est peut-être 80% des plastiques, les emballages, des sérums, des seringues, mm-hmm. des quoi, moi je ne sais pas, parce qu'ici, chez nous, c'est comme ça.
Oui.
80% de plastique. Et ici, vous avez ici en Afrique, nous avons le problème de l'eau. De l'eau pour stocker de l'eau dans la maison, nous avons des bidons, c'est toujours en plastique. Nous avons pour les sachets...
Oui, mais, sachets, ces bidons, vous les rachetez ou sont des bidons que vous pouvez remplir, par exemple, aux bornes fontaines?
Bon, non, on remplit ça dans des bornes fontaines, parfois au lac. Et puis nous les stockons dans la maison.
D'accord, donc ces bidons, finalement, vous n'en accumulez pas des centaines. Ces bidons, vous avez toujours les mêmes qui sont remplis, donc ce n'est pas un problème en tant que tel.
Bon, oui, oui, ça c'est quelque chose de recyclable,
de réutilisable. Vous vous posez une question sur les emballages en carton, je crois, Dupont.
Oui, oui, pour les cartons, vous voyez, produire des cartons, il faut des bois.
Il faut,
vous êtes d'accord avec moi.
Tout à fait, oui, en effet, le papier, le carton, c'est produit à partir de bois.
À partir du bois. Et là aussi, c'est déboisé. Et les déboisements, vous voyez, vous-même, et les scandales.
On voit nous-mêmes. Alors justement, on va poser la question à notre invité. Merci Dupont de nous avoir appelé. Et bien sûr, vous continuez de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Les voisins et les voisines, quel regard vous portez sur votre consommation de plastique? J'en profite aussi pour vous signaler d'aller sur le site RFI.fr. Il y a de l'infographie, beaucoup de schémas, de chiffres, des reportages aussi sur les déchets dans le monde. Dupont posait une bonne question à Annette Fredinger. Le papier, puisqu'aujourd'hui, on le cite beaucoup comme alternative, le papier, le carton, qui est déjà largement utilisé pour transporter des produits de l'agroalimentaire. Est-ce que c'est un problème également pour l'environnement?
Alors, d'une façon générale, la conception d'un emballage obéit à une réglementation qui existe depuis 1994 en Europe, qui dit qu'il faut réduire autant que faire se peut les quantités de matériaux utilisés pour fabriquer les emballages, et il faut les éco-concevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va toujours chercher le matériau le moins impactant sur l'environnement pour remplir une fonction. Dans le cas du papier carton, malheureusement, le papier carton n'est pas imperméable. Donc, si on veut faire une brique, par exemple, pour y mettre un jus de fruits ou autre, on va rajouter une couche de plastique et une couche d'aluminium même à l'intérieur. Alors ça ne veut pas dire d'ailleurs que cette brique ne se recycle pas. Elle se recycle et il y a des filières qui existent en France. Donc en fait, le papier carton va pouvoir remplir certaines fonctions sur les produits solides, mais les gâteaux, les biscuits, les fruits et légumes, largement suffisant d'ailleurs, un papier plus qu'un plastique. Mais par exemple, si on parle de framboises dans les fruits, un papier va risquer de laisser passer le jus des framboises si malheureusement vous les avez un peu bousculés. Donc c'est ça l'emballage, c'est de prendre le bon matériau qui répond aux fonctions qu'on lui demande. Donc ça revient à dire, faut-il un matériau plastique dégradable, biodégradable, compostable, oxo-biodégradable? Alors là, moi je rassure le consommateur, il ne peut pas savoir ce qu'il a entre les mains si ce n'est pas écrit dessus.
Parce que par exemple, comment distinguer un sac qui est fait en amidon de maïs qui est parfaitement biodégradable, qui ne pose pas de problème pour l'environnement, et ces petits sachets très fins qui restent autorisés d'ailleurs dans bon nombre de pays du continent africain, qui interdit les sacs plastiques. Beaucoup de pays interdisent les sacs plastiques, mais ces petits sachets très fins, on dit non, mais c'est bon parce qu'ils vont se décomposer. En réalité, il reste des microparticules dans l'atmosphère. Alors qu'est-ce que c'est ce matériau qui n'est pas biodégradable?
Biodégradable est une définition qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, on va récupérer des éléments simples tels que du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et une matière organique, mais dans des conditions naturelles. Donc c'est la peau d'orange qui se dégrade au soleil. C'est pas une solution forcément intéressante, sauf si vous avez du compost dans votre jardin. Alors quand vous êtes dans une ville, c'est pas forcément le cas. La deuxième solution, c'est le matériau plastique compostable. Celui-ci, d'une façon réglementaire, il va se dégrader en hydrogène, oxygène et humus qu'on va pouvoir récupérer, mais dans des conditions industrielles, donc à 50 degrés pendant un certain temps, en absence de lumière. Malheureusement, en France, très sincèrement, on a très peu d'installations de ce genre, donc ça ne sert pas grand-chose de mettre du compostable sur le marché, dans la mesure où derrière, les communes ne se sont pas préoccupées de ce problème. Je dirais que c'est d'ailleurs un peu la même chose pour le biodégradable. Et je termine juste sur l'oxo-biodégradable. Alors lui, ça veut dire qu'on va rajouter dans du plastique issu du pétrole, un petit peu d'amidon par exemple, et si on laisse cet emballage dans la nature ou dans une station de compostage, les micro-organismes vont s'attaquer à cet amidon et fragmenter les plastiques. Donc, c'est la pire des solutions pour le sol.
Donc, plastique oxo-dégradable.
C'est
vraiment du faussement biodégradable, ce sachet
tout
en plastique.
Et de toute façon, il va être encore plus interdit en Europe.
Est-ce qu'on peut les reconnaître, ces sachets plastiques faussement biodégradables?
Disons que le faussement biodégradable, non. Par contre, quand il comporte une partie d'amidon, vous allez avoir un toucher qui est doux, qui est gras. alors que, et quand vous frottez cet emballage, vous n'avez pas de bruit. Alors qu'un sachet en plastique à polyéthylène, à polypropylène, lui, si vous le frottez, vous avez un petit bruit métallique. Moi, je le qualifie de métallique, mais il y a un petit bruit. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et le dégradable, il s'allonge énormément quand vous tirez dessus, ce qui fait d'ailleurs...
Un peu élastique. Non, mais vous avez donné un bon repère pour les voisins et les voisines que nous sommes tous. C'est que le sachet qui ne fait aucun bruit, hein, complètement silencieux, c'est le sachet le plus biodégradable. Mais si je vous suis bien, Annette Fredinger, il n'y a aucun sachet plastique à l'heure actuelle qui va pourrir tout seul sur le bord d'une route et disparaître totalement sans jamais nuire à l'environnement.
Si, mais est-ce que moi, je n'encouragerais pas ce geste d'aller jeter ça au coin de la rue?
Non, d'accord.
Il faut, voilà. Donc, si vous avez un compost chez vous, que vous mettez ces sachets dans votre compost, vous allez le voir se dégrader.
D'accord, mais si on n'a pas de compost, il y a donc des sachets qui peuvent se dégrader complètement.
Qui partent en incinération.
D'accord.
Ils partent en incinération avec le restant des déchets organiques.
Hein. Vous partez du principe qu'effectivement, tout déchet doit aller quelque part. Moi, je pensais à ces fameux sachets plastiques qui jonchent les routes sur le continent africain, qui sont ingérés par du bétail et qui posent un vrai problème. Là, effectivement, vous nous citez des sachets plastiques qui, à terme, ne poseraient pas de problème s'ils étaient ingérés.
Oui,
parce
mais
qu'ils sont quand même...
c'est pas forcément la solution. Il ne faut pas qu'ils restent dehors. C'est comme la pelure d'orange. On n'a pas à la jeter dehors.
Oui, d'accord. Mais enfin, la pelure d'orange, elle ne pose pas de problème quand même. Pour l'environnement
non,
à l'heure
mais si
actuelle,
tout le monde se met à la jeter dehors, ça ne sera pas génial.
Vous nous appelez les voisins et les voisines. On vous donne la parole au 33 1 84 22 71. 71, Malik est au Tchad. Bonjour Malik. Malik, j'ai l'impression que vous avez un écho. Oui, il faut couper votre radio surtout pour intervenir en direct à l'antenne, Malik. Vous avez dit au Standard que pour vous, il faut revenir à des emballages traditionnels. Qu'est-ce que c'est?
Oui, des emballages qui sont faits à base de feuilles de palmier, de rognier. Bon, c'est des emballages bio, quoi. Donc, elles sont utilisables à plusieurs reprises et ça n'a pas d'effet sur l'environnement.
Malik, les sacs plastiques sont interdits chez vous au Tchad?
Bon, les sacs étaient interdits à un moment en Djamena, dans la capitale.
Malik, je crois qu'on a vraiment des difficultés à vous avoir au téléphone. On essaiera de vous rappeler. Delphine nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on a bien Delphine au téléphone?
Oui, je suis là.
Oui, Delphine, bonjour. Merci de nous téléphoner. Alors vous, quel est le regard que vous portez sur l'utilisation des sacs plastiques chez les commerçants?
Bonjour Emmanuel. Nous, ici, à Kinshasa, les Libanais nous ont apporté une nouveauté qui concerne le sac en coton. Je vous explique ça, la forme de sac, un sachet comme ça, un sachet ordinaire, mais c'était un sac plutôt en carton. Vous pouvez le conserver pendant plus de 4 mois si vous voulez. Vous pouvez le relaver, le nettoyer pour le garder toujours agréable aux yeux des autres. Vous pouvez, si ça se dégrade souvent au niveau de couleur, hein. Si vous voyez que la couleur se dégrade, vous pouvez encore le garder à la maison pour garder vos vieilles histoires.
Mais Delphine, je suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est un sac en coton ou il y a aussi du carton à l'intérieur?
Non, il n'y a que du coton. D'accord. C'est ça que j'ai dit. Il y a
c'est pour
que
ça qu'il
du coton.
D'accord. Donc
oui,
ça. Bon, pas besoin de nous faire un dessin. On a bien compris. Un sac en tissu.
Oui,
c'est facile à imaginer. Est-ce que vous connaissez, Delphine, du coton enduit de cire d'abeille? Est-ce que vous avez déjà vu ça?
Non, pas du tout.
Bon, restez avec nous à écouter l'émission et vous pouvez bien sûr les uns et les autres continuer de nous téléphoner pour questionner nos invités. 33 1 84 22 71 71. On parle maintenant des alternatives au plastique. Quentin Sinel, vous avez fondé l'entreprise L'Embeillage et non pas L'Emballage, hein, jeu de mots avec les abeilles, parce qu'il y a bien une relation avec les abeilles sur vos petits films semi-rigides que vous avez apportés dans le studio pour ceux qui nous regardent en vidéo. Voilà. Vous êtes en train de montrer ce qu'on peut faire avec ces petits carrés. Donnez-moi un petit carré de coton là, que je le manipule. Voilà, c'est moitié rigide, moitié souple. Enfin, c'est un peu comme une pâte à modeler. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Hein. Et donc, dites-nous exactement ce que c'est que cet embeillage.
Alors, l'emballage, c'est une alternative 100% naturelle et réutilisable au film alimentaire plastique. Vous l'utilisez de la même manière, comme un couvert, comme une seconde peau protectrice autour de vos aliments. Ça vient vraiment se modeler à la forme souhaitée. Le principe, c'est que voilà, une fois que vous l'avez utilisé, vous le lavez, vous passez
donc,
un petit coup d'éponge dessus.
Ce coton, il a été trempé dans de la cire d'abeille.
Voilà, on a établi un process de fabrication où c'est du coton biologique qui est infusé dans de la cire d'abeille, de la résine de pin et de l'huile de chanvre. Que des ingrédients biologiques, et c'est ce qui donne cette texture modelable, réutilisable, et qui est entièrement biodégradable en fin de vie. C'est un déchet voilà, qui va, vous allez en avoir pour un an et demi d'utilisation. Et au bout de ces un an et demi, vous le coupez en petits morceaux, vous le mettez dans votre compost, et c'est un déchet qui disparaîtra.
Ouais, si on a un compost.
Alors, si vous avez un compost.
Quand on lave, la cire d'abeille ne s'enlève pas.
Non, vous le lavez à l'eau.
Parce que là, j'ai les doigts un peu collants quand même de l'avoir manipulé, vaguement.
Voilà, vaguement collant. Donc en fait, cette texture va durer un an et demi. Et quand vous le lavez, l'eau vient perler dessus. C'est entièrement imperméable et c'est ce qui permet de conserver notamment le jus de vos aliments et d'apporter une meilleure conservation par la cire d'abeille qui a des vertus.
Donc là, vous avez recouvert un bol où il reste des aliments qu'on veut conserver pour le lendemain, par exemple. Hein, et donc, vous avez moulé ça autour du bol. On peut conserver des choses avec des jus, un tout petit peu liquide.
On peut conserver des choses avec des jus. Ça peut être un demi-citron, un demi-fruit entamé, un légume.
C'est pas complètement étanche non plus.
Si, c'est complètement imperméable. C'est-à-dire que vous avez le jus de votre citron qui va vraiment rester à l'intérieur.
On ne pourrait pas mettre un liquide, par exemple. On ne pourrait pas le transformer
aujourd'hui,
c'est un peu compliqué.
C'est compliqué de le transformer en gourde, mais en innovant un petit peu avec de la recherche et développement, c'est un matériau qui pourrait être amené à utiliser de manière plus industrielle en venant pelliculer avec ce matériau biodégradable.
Comment vous avez découvert cet emballage
Alors moi,
du futur?
J'ai découvert cette alternative au plastique lors d'un voyage en Australie il y a 3 ans. J'étais chez une famille d'Australiens qui était très sensibilisée à ces questions environnementales et de gestion des déchets. Et ils fabriquaient donc eux-mêmes ce type d'emballage. Et on a retrouvé des traces. C'est quelque chose qui existait en France avant qu'on commence à utiliser du plastique, en fait, dans les années 60.
Ah bon ?
Voilà, les personnes allaient chez leurs apiculteurs avant même que le réfrigérateur existe. Ils trempaient des vieux linges dans de la cire d'abeille. Ah. Et ça donnait cette texture imperméable qui amenait plus de conservation à l'époque où on n'avait pas encore de réfrigérateur. Ouais.
Techniquement, qu'est-ce que vous pensez de cette innovation, Annette Fredinger ?
Alors, félicitations à Quentin d'avoir mis en œuvre cette technologie. Alors, pour moi, j'appelle ça la charlotte à la saladier. Hein. Ça va remplacer le film alimentaire que les ménagères ont chez eux. Donc, je trouve que c'est génial parce que ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ça permet de garder ses produits un peu plus longtemps. Par contre, comme l'a dit lui-même Quentin, ça ne va pas se substituer complètement à un emballage pour une tranche de jambon depuis le fabricant ou la ferme qui l'a fait trancher le jambon jusqu'à chez moi. Donc, c'est une des alternatives possibles, bien sûr. Et il y a la cire d'abeille, il y a la cire de carnauba.
Vous voulez dire que c'est bien à la maison, mais pour les industriels, c'est pas utilisable.
Voilà, ça peut très bien aller pour faire ses courses au marché. Si je vais avec un récipient en verre en magasin en vrac, chercher ma crème, je vais pouvoir mettre cette charlotte, entre guillemets, sur l'emballage, le bocal en verre vide que j'ai ramené chez moi. Donc, il y a des alternatives sur des petites niches comme ça.
Quentin Sinel, vous êtes d'accord avec ça? Pour l'instant, c'est vraiment de l'utilisation pour le consommateur et pas sur la filière en amont.
En l'application, voilà, ça peut être utilisé comme ça. Après, on a eu des demandes, notamment d'agro-industriels qui importent des bananes, etc., qui cherchent aussi ce type d'alternative pour pouvoir emballer leurs fruits et amener une préservation qui soit plus grande. On a des demandes de restaurateurs aussi, de boulangers, voilà, ça va de chefs étoilés jusqu'à des petits restaurants bio locaux qui cherchent ce type de solution, même pour en cuisine, voilà, eux qui sont obligés de venir filmer leurs plats.
Alors, bon, il y a un problème quand même, hein, c'est que comme on a un problème avec les abeilles et avec la production du miel, du fait des pesticides massifs, c'est sûr que cet emballage-là trempé dans de la cire d'abeille à utilisation massive, comment on fait? On n'a pas assez de miel, de cire d'abeille plutôt.
Moi, je peux en parler avec le cœur, mon père est lui-même apiculteur, et c'est justement ce type d'alternative qui peut permettre de préserver les abeilles en amenant de nouveaux débouchés. Nous, à chaque fois qu'on vend un lot d'emballage, on sauve 10 abeilles. Donc, c'est un petit calcul qui permet de réimplanter des ruches en France et d'amener un débouché un peu autre pour les apiculteurs qui sont aujourd'hui frappés de plein fouet par la mortalité sur les colonies d'abeilles.
Alors, revenir donc à cette vieille utilisation, un linge de coton trempé dans de la cire d'abeille. Là, évidemment, on l'achète tout fait sur Internet ou dans des magasins un peu spécialisés de filières bio. Je vous propose de partir maintenant vers un pays pionnier dans la lutte contre les déchets plastiques, le Rwanda. C'est un des premiers pays du monde à avoir interdit les sacs plastiques en 2008. Et aujourd'hui, un peu plus de 10 ans après, la capitale où vous vous trouvez, Laure Broulard, est réputée pour sa propreté. Vous êtes en direct de Kigali, Laure Broulard. On vous donne la parole.
Bonjour. Et oui, tout à fait, hein. Kigali est connue dans le monde entier comme une ville verte. Et même, selon l'expression d'un haut cadre de l'ONU, comme la ville la plus propre du monde. Alors effectivement, contrairement à beaucoup de capitales africaines, ici on ne voit pas de sacs plastiques accrochés aux branches des arbres, pas de montagnes de déchets dans les rues, et ce même dans les quartiers populaires. Et effectivement, depuis 2008, les sacs en polyéthylène ont complètement disparu du paysage urbain. Leur importation, leur utilisation et leur commercialisation est strictement interdite, sous peine de lourdes amendes. Le trafic est également durement réprimé. Et donc, ceux qui tentent de faire passer les précieux sacs depuis la frontière ougandaise ou congolaise risquent la prison. C'est donc une politique très répressive, avec des inspections surprises, des contrôles à l'aéroport et aux frontières. Et donc, depuis 10 ans, tout est fait pour que ces sacs plastiques restent en dehors du pays.
Et donc, finalement, comment ça se passe, Laure Broulard, dans les supermarchés, dans les petits commerces ?
Eh bien, on utilise tout simplement des sacs en papier brun qui sont en libre service aux caisses des supermarchés. Et pour les produits frais et réfrigérés, les emballages plastiques sont encore autorisés, hein, car la loi de 2008 n'interdit que les sacs en plastique non dégradables. Mais il faut savoir que la politique environnementale tient vraiment à cœur, hein, au gouvernement rwandais, et ça se ressent dans la capitale. Certains bars vont donc déjà plus loin. Ils proposent des alternatives aux pailles en plastique, comme des pailles en métal. C'est le cas, par exemple, du Kigali Art Café ou même de l'hôtel Marriott. Et les institutions veulent également montrer l'exemple. L'année dernière, l'ancien ministre de l'Environnement, Vincent Biruta, annonçait ainsi que plus personne dans son ministère n'utiliserait de bouteilles en plastique. Mmh.
Et est-ce que les fabricants et revendeurs de sachets plastiques se sont adaptés, Laure ?
Eh bien, ça n'a pas été facile, hein, surtout parce que les emballages alternatifs coûtent plus cher que le plastique. Mais certaines entreprises qui fabriquaient des sacs plastiques se sont reconverties dans le recyclage. Et puis, le secteur des sacs en papier a bien évidemment été boosté. L'autorité rwandaise de l'environnement, en charge de l'application de la loi, a en tout cas mis en place de nombreux programmes de sensibilisation pour accompagner la transition. Et il semble, hein, que 10 ans après, tout le monde s'y soit habitué.
Aujourd'hui, le gouvernement rwandais considère que le recyclage ne suffit plus, Laure ?
Tout à fait. Et le gouvernement compte bien aller beaucoup plus loin avec une nouvelle loi publiée au journal officiel le mois dernier, un texte qui étend l'interdiction à presque tous les objets en plastique à usage unique, avec quelques exceptions évidemment. Les entreprises qui fabriquent des bouteilles en plastique, par exemple, devraient pouvoir demander des dérogations. En tout cas, selon cette nouvelle loi, les marchandises importées emballées dans du plastique seront soumises à une taxe et toute personne qui produit, vend ou utilise des objets en plastique à usage unique risque de lourdes amendes. On parle de 50 euros à 10 000 euros selon les cas. Et donc les importateurs ont 3 mois pour se mettre à la page et les fabricants 2 ans. Donc reste à savoir comment le secteur privé va s'organiser. C'est en tout cas un pas de plus pour le Rwanda qui ambitionne de devenir le premier pays 100% sans plastique. Une politique qui est mise en avant pour booster l'économie et attirer plus de touristes et de conférences dans le pays.
Merci beaucoup Laure Broulard. Vous êtes la correspondante de RFI à Kigali au Rwanda. Merci pour ce point. Un peu plus de 10 ans après l'interdiction totale des sacs plastiques, on le voit, c'est une interdiction qui est très contrôlée, très respectée. Annette Fredinger, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de la recherche pour trouver des alternatives ? Vous nous avez bien dit que de toute façon, le plastique allait rester incontournable. D'ailleurs, une de nos auditrices a bien cité, par exemple, les besoins médicaux, hein, qui ont besoin d'une hygiène irréprochable et que le plastique là-dessus est incontournable. Mais néanmoins, aujourd'hui, les fabricants d'emballages font des recherches pour arriver à des alternatives. Alors, qu'est-ce qui se profile, Annette Fredinger ?
Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de garder les matériaux plastiques pour ce qu'on appelle les emballages à haute valeur ajoutée. Par exemple, pour les sacs en plastique, eh ben, l'alternative vient d'être citée, c'est le sac en papier, qui satisfait dans beaucoup de cas. Alors, pour remplacer vraiment ensuite ces matériaux plastiques pour leurs propriétés d'imperméabilité au gaz et à la vapeur d'eau en particulier, on essaye de développer de plus en plus des biopolymères. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des polymères, donc ça, c'est de la chimie, mais surtout issus de ressources naturelles renouvelables. Alors, les premières ressources naturelles renouvelables qu'on a utilisées comme ça, c'est du maïs avec l'amidon, c'est de la canne à sucre. Ce n'est pas forcément d'ailleurs les meilleures alternatives parce que si on fait un bilan carbone pour l'importation de ces produits, on s'aperçoit qu'il n'est pas forcément favorable à ce type de matériaux. Par contre, la recherche s'oriente énormément sur la valorisation des ce qu'on appelle les coproduits ou les sous-produits, quoi. Par exemple, dans la filière viticole, eh bien, il y a des rafles de raisins qu'on ne sait pas utiliser, qu'on n'utilisait pas, hein, puisqu'on enlève ça pour faire le vin, et qui sont en fait de la cellulose qui peut ensuite être travaillée pour soit faire du papier, soit en le travaillant différemment, puisque la cellulose est un polymère, on peut lui donner des propriétés un peu comme les matériaux plastiques. Donc en fait, l'idée là, c'est
des sacs plastiques avec du déchet de raisin. Donc ça, ça pourrait faire partie
là,
des solutions d'avenir.
Là, pour l'instant, on est au boîte au carton avec des déchets de raisin. Ça, ça existe, c'est sur le marché. C'est une marque de champagne que je ne citerai pas qui a montré l'exemple. Bon, après, par exemple, des gens qui font des pommes de terre congelées pour faire des frites, si vous voyez de quoi je veux parler, bah, ils ont des eaux de lavage qui peuvent être chargées d'amidon qu'on peut récupérer de cette façon. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de recherches actuellement sur le sujet. Le problème est d'avoir des quantités suffisantes pour pouvoir produire en masse.
Et pour qu'il y ait donc un modèle économique et un industriel. Vous, Quentin Sinel, alors justement, on n'a pas encore parlé du pas d'emballage du tout. Vous êtes interrogé notamment pour des cosmétiques, hein, parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens dans les pays du Nord qui utilisent pour se laver du gel douche, alors qu'on pourrait revenir tout simplement à un bloc de savon. Il existe à l'heure actuelle des... Encore une fois, c'est totalement anecdotique, mais bon... Si l'anecdotique s'additionne, ça peut faire un peu plus. Il existe des shampoings solides hein, qui ont la forme d'un savon et qui lavent parfaitement bien. Vous, quelles sont les pistes que vous trouvez intéressantes à l'heure actuelle ?
Bah moi, je pense que les emballages répondent à une demande industrielle et de consommation que nous, on s'est créée. Et que voilà, tout ce qui est au niveau de la salle de bain, on consomme énormément de plastique. Pourquoi un gel douche ne serait pas solide ou comme un bloc de savon ? On a fait ça pendant des siècles et c'est des solutions qui existent. Votre savon est autant efficace qu'un gel douche en plastique. Même chose, voilà, l'auditrice qui parlait des sacs en coton, c'est quelque chose qu'on connaissait. Et je pense que la sortie de l'utilisation du plastique va de pair aussi avec une prise de conscience du consommateur pour aller vers des solutions qui soient plus écologiques, plus économiques à terme, parce que voilà, le réutilisable... On a l'impression que le plastique, ça coûte rien, mais c'est impacté dans le prix de vente finale et chaque consommateur le paye 10 centimes par-ci, 5 centimes par-là, etc.
Pour l'instant, il faut quand même être lucide. Hein. Acheter du savon en vrac sans emballage, dans la tête du consommateur, c'est quelque chose qui est très difficile à admettre. Il aura l'impression que le savon est sale, par exemple.
C'est compliqué, voilà, ça va de pair avec un changement des mentalités, mais on se rend compte que ces nouvelles entreprises qui existent, qui font des cosmétiques, ont au final une liste d'ingrédients qui est beaucoup plus courte, avec des matières qui sont plus naturel et des cheveux qui en sortiront aussi propres.
Annette Fredinger, est-ce qu'il y a dans l'utilisation des emballages plastiques toute une partie qui est quand même très justifiée par du marketing ? C'est-à-dire que ça fait partie de la séduction du consommateur, mais que ce plastique, dans le fond, n'est pas indispensable ?
Ça a été le cas, effectivement. Il faut savoir balayer devant sa porte. Si on parle par exemple, des gels douches et si on parle du savon, en particulier le savon, bon, c'est vrai qu'on peut... Il y a d'ailleurs une grande marque aujourd'hui hein, qui le vend au poids, au kilo. Hein. Vous achetez votre gel douche effervescent sous forme de petites boules que vous mettez dans votre bain. Donc là, il n'y a pas besoin d'emballage, c'est sûr.
Ouais. Par contre, la douche, hein, ça serait mieux que le bain. Ça consommerait un petit peu moins d'eau, hein,
éventuellement. Oui, mais là, C'est bon, le côté effervescent, il faut de l'eau. Quoi.
Oui, après, d'accord.
À vous de savoir utiliser la petite boule en question. Quoi. Par contre, si on regarde la cosmétique, évidemment qu'on va dire que c'est du marketing, mais la cosmétique, elle est là pour normalement améliorer l'état de notre peau. Alors, on nous promet que l'antiride qu'on vous a mis dans l'emballage n'a plus de conservateur. Pour ne plus avoir de conservateur, ça veut dire qu'on a un emballage qui est étanche à l'oxygène et qui est étanche à la vapeur d'eau. Donc là, on ne va pas pouvoir se passer de
l'emballage.
On voit
bien toutes les contradictions tout de même. Oui. Hein. Vous nous appelez les voisins et les voisines. On va passer un ou deux auditeurs quand même avant de se quitter et puis voir comment il faut envisager l'avenir. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Peut-on se passer de plastique ?
Ça me gêne de voir des sachets plastiques dans mon quartier. De l'Afrique, ma voix porte des frappes aux portes du monde entier. Ok, c'est Billy Von et Amy, c'est pas compliqué, version remise, c'est remise. Nous que le quoi big blink et qui a des nougues de la batte et te lever. On voit, n'y a pas de homa, ho, caillé, ho, coupresse, ho, ho, wade. Hein, y a pas haru, tu bio, a haru, galou, vialo, capo, pepe, wade. Y a te ba, miate, ma pote, dare. Et nous, moi, yo, moi, y a be recycle, hein. Nous, t'arrêt, dit, ben, on s'est gobe, hein. Et quand t'es gobe, n'est pas crado, là. Vas-y, posement, sauvons la planète rapidement, efficacement. Répétez, ritendeng. Vas-y, tape les mains, tu peux tourner les reins. À gauche, à droite, devant, derrière, on récite.
Voilà, on avait quand même envie de faire un petit clin d'œil et donner la parole au groupe PIS, un groupe togolais. C'est pas compliqué de trier. Nous, on essaye surtout de voir en amont si on peut éviter les emballages plastiques. On donne la parole à l'Océni qui nous appelle d'Abidjan au 33 1 84 22 71 71. Bonjour, l'Océni.
Bonjour, madame.
Alors, vous, comment vous faites ?
J'ai généralement dans un supermarché, un sac en coton que j'empagne, que j'emporte avec moi pour faire pour prendre mes produits pour aller à la maison.
Ouais.
Depuis les années 94-95, j'étais au lycée. J'ai eu un professeur blanc, une dame du nom de Madame Carole Jean, qui nous disait que les sachets allaient détruire notre pays un jour. Ça nous paraissait bizarre. Et quand on buvait des sachets d'eau qu'on jetait un peu partout, elle ramassait derrière nous, elle les brûlait. Mais depuis ce temps, j'ai pris conscience que la femme, ce qu'elle disait, c'était tout à fait normal. Et vraiment, je ne badine pas avec les histoires de sachets.
Et du coup, comment vous faites autour de vous, comment vous êtes considéré avec votre petit sac en paille, là, quand vous allez faire vos courses, le saignée? Est-ce qu'on vous regarde un peu en souriant? Comment vous vous sentez regardé?
Oh, j'ai des amis quand même qui sont d'accord avec moi, avec ce système. Hein. J'ai plein d'amis que j'arrive à amener avec moi dans ce bateau. Quand on va dans un supermarché, tout ce qu'on peut emporter sans sac plastique, on les prend sans sac plastique. Parce que chez nous, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui a été votée pour dire on va interdire les sacs plastiques. Malheureusement, la loi n'a pas pris d'effet. Jusqu'à présent, les sacs plastiques traînent, mais heureusement qu'il y a une entreprise qui ramasse maintenant les ordures. Vraiment, autour de moi, j'amène les amis, les enfants chez moi à la maison à ne pas jeter les sachets n'importe comment.
Eh bien, merci à vous. Ça sera pratiquement le mot de la fin. Merci de nous avoir téléphoné, l'Océni d'Abidjan. Dans 10 ans, on en sera où, en quelques mots, Annette Fredinger?
Dans 10 ans, j'espère que l'Afrique aura pris conscience qu'elle a aussi des matières premières qui peuvent être utilisées. On parle là beaucoup de sacs en coton, mais moi je l'ai vu à Madagascar, des couffins en paille magnifiques qui valent vraiment la peine d'aller faire ses courses avec. Donc on a parlé tout à l'heure de la feuille de bananier. Donc à la fois revenir à des choses un peu traditionnelles et utiliser aussi des matières premières plastiques pour des recyclages plus intelligents que ce qu'on fait en Europe. Moi j'ai vu à Côte d'Ivoire, on fond ces plastiques avec du béton pour en faire des pavés autobloquants pour faire des trottoirs. Donc, je pense que l'Afrique elle-même va trouver son chemin
là-dessus. Est-ce que la solution, c'est de taxer beaucoup plus le plastique pour le rendre plus cher et qu'on du coup une impulsion à chercher des alternatives?
Alors pour les industriels, oui, si vous taxez l'industriel, il va finir par céder et chercher une solution. Par contre, de toujours taxer le consommateur, vous pouvez aussi avoir un moment...
Non, je parlais des industriels. Ouais.
D'accord, ok. Parce que le consommateur, ça le révolte un peu. Et ce qu'on veut, c'est l'aider à faire le bon tri et qu'il ait l'assurance derrière que les choses soient bien prises en compte pour être recyclées ou traitées.
Quentin Sinel, alors vous, comment vous voyez l'avenir? Un mot de conclusion par rapport à toutes les discussions, parce que vous, effectivement, avec ces fameux embayage hein, à partir de cire d'abeille. Vous êtes dans la recherche d'alternatives de plastique.
Bah moi, je trouve que les mentalités évoluent, qu'on est sur une dynamique où les gens ont pris conscience au moins de ce fléau lié au plastique et que voilà, par des petits gestes du quotidien, si on est 7 milliards à le faire, et ben
7 milliards et demi même maintenant.
7 milliards et demi maintenant.
Merci à vous tous, ça sera le mot de la fin. Et bien sûr, à suivre le reste de nos programmes sur RFI pour cette journée spéciale déchets, ça déborde. À demain.
Tu as vu les records de chaleur en...